Plusieurs pouvoirs pour cette séance. Annie Loyau sera représentée par Pierre Marandon, Rémi Grand par Daniel Maire, Aline Triolet par Nicole Lesage, Pascal Marniquet par Christine Mazzi, Édouard Abon par Astrid Tussaud et William Richard par Jean-Paul Anger. Alors, chers collègues, je vous invite à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Je vous propose donc de désigner Astrid Tussaud comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous commençons notre séance par le débat d'orientation budgétaire. Chers collègues, comme chaque année à cette époque, il nous revient d'aborder notre débat d'orientation budgétaire pour l'exercice à venir. Ce débat s'inscrit cette année dans un contexte quelque peu différent de celui de l'année dernière. En premier lieu, l'économie mondiale connaît un rebond favorable dont la France semble profiter, même si les perspectives de croissance demeurent à ce jour assez modestes. On a eu une croissance de 1,8% en 2017, une légère baisse du chômage qui concerne cependant encore près de 10% de la population active et un frémissement de la consommation des ménages. Pour l'année 2018, le gouvernement reste prudent. Il prévoit une croissance limitée à 1,7% et une inflation estimée à 1,1%. Seule évolution marquante, notre déficit public passerait de 3,4% du PIB en 2016 à 2,6% en 2018, traduisant le respect par notre pays de ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne. Concernant les collectivités locales, la vigilance continue de s'imposer. 2017 a vu l'élection d'un nouveau président, l'émergence d'une nouvelle majorité parlementaire et de profonds changements affectant le paysage politique de notre pays. Et j'ai le sentiment que ce paysage n'est pas encore totalement stabilisé. Pour autant, la relation entre l'État et les collectivités territoriales demeure marquée par la méfiance, une méfiance qui résulte de l'attitude de l'État qui, pour combler ses propres déficits, n'a cessé ces dernières années d'imposer aux collectivités territoriales de nouvelles charges et de le faire à la fois brutalement et injustement. Rappelons en effet que les collectivités ne sont pas responsables des problèmes du pays, elles ne sont pas responsables de l'endettement de la France, ni des déficits de l'État et de la sécurité sociale. Au contraire, je crois pouvoir dire que dans tous les domaines où l'État a joué la carte de la décentralisation, les collectivités ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, à l'heure où s'installe un nouveau pouvoir, nous attendons enfin des signes positifs de l'État. Si les évolutions touchant la taxe d'habitation ne peuvent qu'être bien reçues par les contribuables concernés, force est de constater que la réforme de la taxe d'habitation constitue une menace sur l'autonomie fiscale des communes qui craignent de dépendre demain du bon vouloir de l'État alors que la décentralisation reposait sur un principe d'autonomie fiscale qui n'a cessé de s'amenuiser. Se pose d'ailleurs la question même du maintien de la taxe d'habitation dans un futur proche, un impôt devenu certes injuste au fil du temps puisque reposant sur des critères des années 70 et dont la réforme a toujours été repoussée, quelle que soit la majorité aux responsabilités. Mais un impôt dont, avec la réforme actuelle, on accroît encore le caractère injuste en le faisant peser à terme sur seulement 20% des contribuables. Le gouvernement a donc lancé une réflexion plus large sur la fiscalité locale, réflexion confiée au sénateur Alain Richard et au préfet Dominique Bure. Ses contours restent encore aujourd'hui bien flous et nous saurons probablement au printemps 2018 sur quelle sorte de Big Bang fiscal cette réflexion nous conduira, et ça passera très certainement par la substitution à la taxe d'habitation d'une autre ressource fiscale pour nos collectivités. Le Premier ministre a bien senti qu'il ne pouvait laisser les élus locaux dans l'expectative jusque-là, et lors de la Conférence nationale des territoires qui s'est tenue la semaine dernière à Cahors, il a apporté des réponses sur d'autres thèmes afin de corriger certaines dispositions du projet de loi de finances pour 2018. Face à la grogne montante des élus, il s'est agi tout d'abord de désamorcer leur sentiment d'être mis sous tutelle. Ainsi, certaines des dispositions votées en première lecture par le Parlement et rappelées dans le rapport en votre possession ne sont plus d'actualité aujourd'hui puisque les choses n'ont cessé d'évoluer. Le Premier ministre a par exemple concédé un aménagement des modalités de désendettement de 2,6 milliards par an. La trajectoire de désendettement serait désormais incitative et non plus contraignante. A été également supprimée la disposition dite de la règle d'or renforcée, prévoyant le déclenchement d'une procédure de surveillance de toute collectivité dont le rapport entre l'encours de dette et l'épargne brute dépasserait les 11 à 13 ans. On n'est pas dans cette situation-là, mais c'était un sujet qui avait été très clairement affiché. Le gouvernement a aussi introduit un assouplissement des contraintes pesant sur la hausse maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités. Et dans le même temps qu'il donnait des gages concernant leur libre administration, Édouard Philippe a voulu aussi, entre autres, rassurer le monde rural avec des engagements sur le numérique ou les villes moyennes avec un plan d'action spécifique de 5 milliards portant sur le commerce et le logement, plan dont les modalités sont inconnues aujourd'hui et qui restent donc à préciser. Même si cette volte-face peut donner le tournis, il est pour autant rassurant que nos gouvernements aient enfin entendu que nos collectivités jouent un rôle prépondérant en matière d'investissement public et donc de soutien à la croissance, mais également un rôle essentiel en matière d'aménagement du territoire. Qu'en est-il maintenant des conséquences de ces évolutions pour la ville d'Épernay ? Il est évidemment trop tôt pour le dire puisque ces réformes ou ces annonces viennent d'être faites. S'agissant de la taxe d'habitation, sachez qu'elle représente 18% des recettes réelles du budget principal de la ville. Son devenir, donc, ou la compensation ou la substitution par une autre ressource fiscale, constitue donc un enjeu important pour les prochaines années. S'agissant de la maîtrise de nos dépenses réelles de fonctionnement, notre collectivité fait mieux que le taux de 1,1% maintenant indicatif fixé par l'État. En effet, entre 2017 et 2018, nous réussirons à baisser de 1,6% les dépenses de fonctionnement de la ville et de ses annexes. Cet effort nous permettra de maintenir notre autofinancement à la même hauteur que celui de l'exercice 2017, c'est-à-dire à un niveau assez élevé de 5,25 millions d'euros. Cet autofinancement important et le choix de faire croître notre encours de dette de 2 millions d'euros pour accompagner la renaissance de notre musée nous amène à une capacité de désendettement de 7,3 années, même s'il n'est plus impératif. Nous sommes donc loin du plafond national de référence qui oblige une collectivité comme la nôtre à se situer sous la barre des 11 à 13 années. Nous obtenons ce résultat en continuant de disposer d'une dette parfaitement sécurisée et bien entendu sans utiliser le levier fiscal. L'an prochain, les taux communaux d'imposition n'augmenteront pas pour la 13e année consécutive avec, je vous le rappelle, deux baisses intervenues en 2007 et 2008. Et dans le même temps, nous maintiendrons notre politique volontariste d'abattements fiscaux, notamment en faveur des familles. Malgré la poursuite de la baisse des dotations de l'État que va préciser Christine Mazzi dans l'exposé qui va suivre, nous continuerons de faire progresser nos dépenses d'équipement en 2018. Nos choix et les subventionnements mobilisés vont nous permettre d'atteindre un niveau de 12 millions d'euros pour 10 millions 100 l'année dernière et 7,7 millions en 2016. Il s'agit du montant le plus élevé depuis le début de l'actuel mandat municipal, mais cela s'explique par l'aboutissement d'un certain nombre de projets, dont le projet de musée dont il sera beaucoup question cette année. En janvier prochain, le vote du budget primitif nous permettra d'examiner dans le détail les actions municipales, tant en matière d'investissement que de fonctionnement. Les derniers arbitrages ne sont pas rendus à ce jour, même si nous connaissons à peu près les enveloppes que nous allons consacrer au fonctionnement et à l'investissement. Parmi nos investissements figureront les opérations suivantes. D'abord, une étape importante des travaux de réhabilitation du château Perrier pour le convertir en musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Ce projet, vous commencez à bien le connaître et il sera sans aucun doute le projet majeur de cette année 2018. Ensuite, l'aménagement de la plateforme du ballon captif et son entrée en exploitation. Nous aurons également la prise en compte des investissements du budget participatif ou encore la poursuite de notre programme de voirie avec notamment la deuxième phase de l'avenue Jean Jaurès, un projet évidemment important, complexe de par l'impact qu'il va avoir sur la circulation dans notre ville, mais néanmoins indispensable au regard de la nécessité de donner à notre entrée ouest de la ville un visage plus accueillant. Comme vous pouvez le constater, nous restons fidèles en 2018 aux principes budgétaires que nous avons définis depuis plusieurs années, maîtrise des dépenses de fonctionnement et stabilité de la fiscalité pour permettre à notre ville d'investir afin d'offrir aux Sparnassiens un cadre de vie de qualité et de nourrir de nouvelles ambitions pour l'avenir. Je vais maintenant demander à Christine Mazzi de vous apporter les éléments d'information complémentaires en apportant notamment un éclairage précis sur un certain nombre d'indicateurs et d'éléments financiers contenus dans le rapport dont vous avez été destinataire. Je vous proposerai ensuite, évidemment, d'ouvrir notre débat. Donc, on va tout de suite examiner les chiffres clés des orientations budgétaires 2018 et nous entrerons immédiatement après dans le vif du sujet.
Donc nous allons déjà démarrer, si vous le voulez bien, par un petit rappel du contexte national tel que ça vient d'être présenté. Donc une prévision de croissance du produit intérieur brut de 1,7%, un objectif d'économie de 13 milliards d'euros entre 2018 et 2022, soit 2,6 milliards d'euros par an. La contribution au redressement des finances publiques qui est abandonnée, le prélèvement du fonds de péréquation qui est identique à 2017, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui est intégrée dorénavant dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée, le montant national de la DSU qui est en hausse de 90 millions d'euros et puis la valorisation des bases fiscales de 1,2%. Alors, les effets au niveau communal. Donc, en ce qui concerne l'évolution du fonds de péréquation des ressources intercommunales, donc, le montant de l'enveloppe du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, donc le FPIC, est gelé à 1 milliard d'euros en 2018. La loi de programmation prévoit le maintien de ce dispositif. Ainsi, pour notre commune, le montant prévu au budget 2018 est identique à celui qui a été versé en 2017, soit 1,1 million d'euros, comme indiqué sur le graphique. Cette péréquation horizontale représente près de 7 points de fiscalité. Le montant prélevé sur la période 2012-2018 aura été de un peu plus de 5,5 millions d'euros. Alors, la baisse que l'on... Pardon. Si on voyait une petite baisse du montant du FPIC entre 2016 et 2017, cette baisse correspond tout simplement au passage en communauté d'agglomération.
C'était l'un des effets bénéfiques, on en avait parlé à l'époque, de la transformation de notre communauté de communes en communauté d'agglomération.
Alors, en ce qui concerne l'évolution des dotations de l'État, donc... Pour la légende un petit peu de ce graphique, donc en vert, il s'agit de la dotation globale de fonctionnement. En bleu, hein, donc ça c'est c'est un élément qui est nouveau, qui apparaît puisqu'il s'agit des attributions de compensation qui sont liées à notre fusion en agglomération. En jaune, il s'agit de la DSU, la dotation de solidarité urbaine. Ensuite, en vert très pâle, les compensations fiscales hors dotation. Et puis, en rouge, donc la contribution au redressement des finances publiques. Alors, les graphiques illustrent l'effort qui a été demandé par l'État aux collectivités hein, au travers du redressement des comptes publics et les conséquences qui en ont découlé sur la ville d'Épernay. Ces conséquences s'ajoutent bien sûr au gel de l'enveloppe normée qui se traduit par une baisse de la DGF, comme on le voit sur le graphique. Cette contribution au redressement des finances publiques qui a été initiée en 2014 pour atteindre les 27 milliards d'euros en 2017 n'est pas reconduite. Elle est représentée par les petits rectangles en pointillés rouges. Hein, donc elle n'apparaît plus en 2018 puisqu'elle n'a pas été reconduite. Sur la période 2014-2017, le montant total de cette contribution est de 5,8 millions d'euros, si on additionne les différents petits rectangles. Le projet de loi de finances 2017 fixe le montant de la DGF à 27 milliards d'euros. Il propose de financer la progression de la péréquation de la même manière que les années précédentes, à savoir un financement pour moitié par les variables d'ajustement et pour l'autre moitié par les écrêtements internes à la dotation globale de fonctionnement. Sur la base de ce principe, les différentes composantes de notre dotation diminuent annuellement. En 2017, cette perte est de 232 000 euros. En 2018, l'estimation qui est faite est de 192 000 euros. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui entre maintenant dans les variables d'ajustement de l'enveloppe normée, donc qui est représentée par le rectangle rouge. C'est une dotation qui est issue de la suppression de l'ancienne taxe professionnelle. Le montant de cette compensation était figé, puisqu'on le voit bien, il était depuis le départ d'1,9 million d'euros. Il diminue pour passer en 2018 à 1,6 million d'euros. Entre 2012 et 2018, le montant de notre DGF est passé de 9,6 millions d'euros à 5,9 millions d'euros, hein, hors transfert à l'agglomération, qui se trouve en bleu, là, c'est le nouveau rectangle qui apparaît pour 2018. C'est donc 3,6 millions d'euros qui ont été prélevés sur la ville d'Épernay, auxquels, bien sûr, nous devrons rajouter la diminution de 300 000 euros la dotation de la contribution au redressement des finances publiques. La ville d'Épernay devrait voir le montant de ses dotations diminuer de près de 500 000 euros pour l'année à venir. Alors, en ce qui concerne l'évolution de la fiscalité à pouvoir de taux, le projet de loi de finances prévoit un coefficient de revalorisation des bases locales au niveau de l'inflation qui est connu en novembre. Il est de 1,2%, comme il a été dit tout à l'heure. Dans cette projection, le produit fiscal attendu en 2018 au titre des trois taxes, à savoir donc la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, s'élèverait à 16,6 millions d'euros sans augmentation des taux. Les autres recettes fiscales, il s'agit des droits de mutation qui sont réévalués au niveau attendu en 2017 et qui correspond à la tendance nationale. Ils sont donc estimés pour 2018 à 750 000 euros. La taxe sur l'électricité comme la taxe de séjour seront ajustées par rapport au montant perçu en 2017, soit 610 000 euros. Le montant des attributions de compensation augmente les recettes fiscales en 2018. Elles sont estimées à environ 30,6 millions d'euros. Et cette variation, bien sûr, est à relier à la diminution d'une part de la DGF et d'autre part à la diminution des compensations, notamment en ce qui concerne la part professionnelle. Alors, les ressources humaines. Après avoir examiné l'évolution et l'estimation pour 2017 de nos recettes, nous allons observer l'évolution de nos dépenses et déterminer le niveau d'équilibre nécessaire à l'adoption du budget. Donc, première dépense, les ressources humaines, la masse salariale. Donc, ce graphique a pour objectif de vous indiquer les effectifs au 31 décembre 2015. Il est extrait du bilan social 2016, puisque nous devons réaliser un bilan social tous les deux ans. Donc, conformément au décret du 24 juin 2016, qui est relatif au contenu du rapport d'orientation budgétaire, donc figurent dans ce graphique les éléments qui sont issus donc, du dernier bilan social de 2016 et qui a été présenté en instance paritaire au mois de juin 2016. Donc, il nous indique que les effectifs au 31 décembre 2015 étaient de 581 agents en position d'activité, donc tous statuts confondus, et conformément au statut de la fonction publique territoriale. La grande majorité des effectifs est constituée, donc en vert foncé, à 69% par du personnel titulaire, ce qui représente 404 agents. Par 6%, donc en vert clair, des effectifs qui sont des contractuels sur des postes permanents, donc 33 agents. Et en mauve, pour 25%, des agents qui n'occupent pas un emploi permanent. Il s'agit pour la plupart de vacataires qui sont principalement mobilisés sur des actions développées par le service éducation, des saisonniers en contrat de renfort pour accroissement d'activité, comme par exemple au niveau des espaces verts. Donc, ce qui représente un effectif de 144 agents. Donc, si l'on regarde la répartition des agents par catégorie hiérarchique, donc au niveau de la catégorie C, donc vous avez la majorité des agents, et puis nous avons distingué les agents titulaires des non-titulaires. Donc, pas de commentaire particulier sur ce graphique, hein. Donc avec une majorité systématiquement d'agents titulaires, notamment en ce qui concerne les catégories B et C. Alors, si on regarde la gestion prévisionnelle des effectifs, donc ce graphique a pour objet de nous montrer la prévision des départs en retraite hein, sur les années futures. Donc, les prévisions de retraite sur les 10 ans à venir montrent une évolution croissante avec un pic aux alentours de 2023, avec 20 départs programmés. À savoir qu'il s'agit bien sûr de prévisions, puisque pour établir ces prévisions, nous avons pris en compte la date de naissance, bien évidemment, des agents, en tablant soit avec un départ en retraite à l'âge de 60 ans pour les carrières longues ou 62 ans. Bien évidemment, il s'agit, je répète encore, d'une prévision, puisque tout dépend de la volonté des agents à partir à l'âge légal à la retraite, puisque rien ne les empêche de poursuivre leur activité au-delà de l'âge légal. Donc, sur les 8 départs à la retraite qui interviendront en 2018, 5 ne seront pas remplacés par le biais de réorganisation interne. De même, 3 postes d'agents qui ont quitté la collectivité ne seront pas remplacés. Dans le même temps, l'avancement du projet de réhabilitation du musée conduit bien sûr à poursuivre la constitution de l'équipe, qui permettra l'ouverture de l'équipement au public en 2019. Le recrutement d'un personnel responsable de la boutique et de l'accueil est projeté pour le dernier trimestre 2018. Les démarches de mutualisation entreprises également avec la communauté d'agglos impactent le tableau des effectifs de la ville, puisque la mise en place des services communs a conduit à transférer 26 postes à l'EPCI depuis le 1er janvier 2016. Donc la transition est toute trouvée, la poursuite des démarches de mutualisation. Donc un certain nombre de services communs que vous connaissez maintenant, les marchés publics, les affaires juridiques, le service achat, DSP, les finances, le contrôle de gestion, la communication, l'administration générale, l'informatique et les ressources humaines. Donc la création d'un service commun politique de la ville également, compétence obligatoire de la communauté d'agglo depuis cette année. Donc un petit rappel sur la loi NOTRe, puisque la loi NOTRe oblige le transfert de plein droit des agents qui exercent en totalité dans un service commun ou la mise à disposition d'agents municipaux qui exercent là partiellement leur mission pour le compte d'un service commun. Donc je rappelle qu'au niveau des services fonctionnels, 26 postes ont été transférés à l'EPCI depuis le 1er janvier 2016. Donc en contrepartie, la ville rembourse à l'EPCI les recours aux services communs, ce qui représente 1 100 000 en crédit de fonctionnement. Et puis le service commun politique de la ville, il s'agit là d'une mise à disposition partielle de 6 agents, qui représente 1,41 ETP. Alors, un petit focus sur notre dette, avec dans un premier graphique la représentation de la charge de la dette, donc les intérêts. On remarque bien que les intérêts sont en nette diminution depuis plusieurs années. Donc depuis 2011, la diminution des intérêts représente 47%. En 2018, le volume des charges financières sont estimées au même niveau que le montant réalisé pour l'année 2016, comme il est indiqué sur le graphique, 590 000 euros. Alors, notre dette est constituée de 31 contrats avec une durée de vie moyenne de 5 ans et 2 mois. Elle est contractée avec de nombreux partenaires, comme vous pouvez le voir sur le graphique en bas à droite. Rappelons que nous avons une dette sécurisée selon le classement Gisler et que tous nos emprunts sont classés en catégorie 1A ou B. Actuellement, nos emprunts sont à 62% sur du taux fixe et 38% sur du taux variable. Le taux moyen global de notre dette pour 2018 sera de l'ordre de 1,72%. Donc notre encours de dette est à ce jour de 30,5 millions d'euros, auquel nous devons ajouter l'emprunt réalisé en fin d'année de 2,7 millions d'euros sur le budget ville et 300 000 euros sur le budget parking et puis 1,3 million d'euros de report. Notre encours sera donc de 34,9 millions d'euros en fin d'année, dont les 1,3 millions d'euros de report. En 2018, il est envisagé d'augmenter l'encours de 2 millions d'euros afin de prendre en compte le projet structurant du musée. À fin 2018, notre encours sera alors légèrement inférieur à 37 millions d'euros. Alors, concernant les objectifs budgétaires, donc concernant les recettes réelles de fonctionnement, le montant des recettes réelles de fonctionnement sont estimés à 41,9 millions d'euros. Elles devraient diminuer de 1,4% par rapport au précédent budget primitif, compte tenu de tout ce qui a été évoqué auparavant. Donc, compte tenu de ces recettes, il faut bien évidemment prévoir nos dépenses, puisque nous prévoyons les dépenses en fonction des recettes. Donc, notre objectif, bien sûr, est de maintenir un autofinancement identique au budget primitif 2017. C'est un choix de la collectivité. Outre le fait qu'il traduit, bien sûr, notre effort en matière de fonctionnement, c'est un indicateur important qui entre dans le calcul de notre capacité de désendettement. Il nous faut donc agir sur le montant de nos dépenses réelles de fonctionnement. Elles devront donc diminuer de 2% sur le budget principal, et ce, dans l'objectif de maintien des taux à l'identique par rapport à 2017. Donc, notre capacité de désendettement, nous utilisons déjà couramment ce ratio dans notre collectivité. Donc, ce ratio est déterminant dans l'analyse financière puisqu'il mesure la capacité de la ville à rembourser sa dette en année. Donc, il sera pour la ville d'Épernay et ses annexes de 7,3 ans avec, je le rappelle, un encours de dette en augmentation de 2 millions d'euros en 2018. Donc, l'autofinancement qui reste, comme vous le voyez, c'est le rectangle orange qui figure sur le graphique. Donc, entre 2017 et 2018, comme je vous l'ai indiqué, le choix est bien sûr de maintenir notre valeur d'autofinancement. Donc, avec un encours de dette qui augmente, bien évidemment, ce ratio augmente légèrement. Et concernant les dépenses d'équipement de la ville et de ses annexes, donc, comme l'a rappelé M. le maire dans sa présentation, le volume 2018 des investissements devrait s'établir à quelque 12 millions d'euros, donc compte tenu d'un certain nombre de projets structurants. Donc l'augmentation, c'est bien sûr l'accroissement de notre encours, affecté directement à des équipements et à des subventions sur projet. Donc est-il besoin de le rappeler, le musée, mais également le projet Rosemont et puis d'autres projets comme TEPCV ou les certificats d'économie d'énergie qui permettent un effet levier sur le montant de nos équipements. Et j'en ai terminé.
Merci Christine. Le débat d'orientation budgétaire donc appelle maintenant un débat comme son nom l'indique. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui veut commencer. Marc.
Merci. Donc là, nous avons la situation nationale qui semble un peu moins noire que les années précédentes. Le budget, les dotations sont en légère diminution pour certaines, mais nous avons d'autres rentrées qui augmentent, donc cela devrait être, être équilibré. Vous ne parlez pas toujours de la réalité de notre ville. Le grand écart entre un nombre important de pauvres et de grosses fortunes, du taux de chômage intramuros, de la chute démographique. Cependant, vous possédez quelques chiffres. Quand on regarde le rapport que nous allons voter tout à l'heure sur le quartier prioritaire, je vous rappelle que vous avez 26,2% de ménages dans ce quartier qui sont non imposés, un taux de pauvreté de 44,4%, un taux d'emploi chez les hommes de 53% et chez les femmes de 41%. Donc, vous ne proposez pas de réelles solutions à ces problèmes cruciaux. En ce qui concerne les rentrées, donc la DGF, on l'a vu, diminue, ainsi que la DCRTP, mais on a d'un autre côté la DSU qui augmente de 70 000 euros, les droits de mutation qui doivent augmenter un peu plus de 200 000 euros, la taxe sur l'électricité qui est une taxe que nous augmentons tous les ans et qui il y a quelques années était fixée à 0%, monte en puissance, puisque maintenant nous allons atteindre, je crois, les 650 000 euros. Et puis, il y a l'augmentation, la revalorisation des bases, ce n'est pas de votre faute, vous allez me dire, comme chaque année, de 1,2% voté par le Parlement, donc qui augmente les impôts locaux. On parle d'augmentation d'impôts locaux et on ne parle pas, malgré la stabilité des taux. Concernant le personnel, vous avez noté 581 postes. Vous avez dit, pardon, alors que c'est noté 585. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les quatre postes qui diffèrent. Bon, peut-être. Bon. Au 31 décembre 2015, mais quel est le nombre au 31 décembre 2016, voire au 31 décembre 2017? Vous avez transféré 14 postes à la communauté d'agglo, à la communauté de communes en 2015, 26 postes en 2016, un poste en 2017 ou peut-être au 1er janvier 2018, on va le décider aujourd'hui. Y en a-t-il eu davantage? en ai-je oublié. Ces personnes se trouvent-elles moins bien dans leur nouvel emploi? C'est une question. Ont-elles davantage de travail qu'à la ville? Point d'interrogation. Sont-elles dans le mouvement contestataire actuel les employés en général broient du noir à la glo, vous le savez bien. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et réclament un audit. Concernant les emplois aidés, combien la ville en emploie-t-elle actuellement? Combien ont été supprimés? Combien seront supprimés en 2018? Qui les remplacera? Qui effectuera leurs tâches? Car vous prévoyez encore de supprimer 8 postes non remplacés. 8 postes, oui. C'est marqué 5 postes non remplacés et vous en avez ajouté 3 là, je crois, réellement. Ça fait 8. Et vous en aviez déjà supprimé 7 en 2017. Dernier point sur le personnel. Vous n'avez pas parlé de l'externalisation ou privatisation. Se poursuivra-t-elle en 2017? Concernant la dette, elle passe de 28 millions d'euros en 2011 à 37 millions en 2018, soit une augmentation de 2 millions par rapport à 2017. Je pense que les 3 millions empruntés sont comptabilisés dans l'encours 2017. Hein, les emprunts que vous avez faits récemment, je crois que c'était des emprunts au mois de novembre, c'était des emprunts prévus. Donc l'encours de la dette va être stable malgré la diminution des taux. Et puis, dernier point évoqué, l'investissement. Pouvez-vous nous rappeler l'étalement des différentes sommes concernant le musée? Donc là, je pense qu'en 2018, ça doit être 2 millions correspondant à l'emprunt. Combien a-t-on déjà investi et que restera-t-il? Quel est l'investissement en voirie? Bon, en voirie, nous avons bien eu récemment le projet, mais on n'a pas eu de chiffrage. Et puis, que coûtera la plateforme pour le ballon captif que vous avez indiqué dans vos investissements? Merci.
Merci. D'autres interventions? Monsieur Angers.
Oui, merci, monsieur le maire. Moi, je vais me contenter de quelques remarques à chaud par rapport aux présentations qui ont été faites par madame Mazzi et puis par vous-même. La première, je ne suis ni macroniste de la première heure ni de la seconde, donc je pourrais être encore peut-être plus sévère que vous ne l'êtes par rapport à ce qui qualifie aujourd'hui la politique de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales. Je vous rejoins sur un certain nombre de points, notamment avec cette continuité manifeste de l'État à serrer le col des collectivités territoriales. Alors donc on est dans le vrai paradoxe, parce que l'État, de plus en plus impécunieux, retire, je dirais, l'attractivité des territoires en diminuant la qualité du service public qui peut y être rendu. Et puis, dans le même temps, effectivement, on astreint les collectivités territoriales à une diète de plus en plus forte. Il y a quand même de quoi s'inquiéter, effectivement, et là, je suis presque plus le contribuable que l'élu qui parle au travers de cette réforme de la taxe d'habitation. Vous avez dit 20% des contribuables demain vont assurer les rentrées d'argent à ce niveau-là, vont être encore soumis à la taxe d'habitation. On se demande si dans ce pays, il n'y a que cette frange, ce volant de contribuables qui ont pour mission de supporter les dépenses du pays. Moi, je pense que la réforme telle qu'elle est envisagée aujourd'hui ne va pas dans le bon sens. Il faut une réforme, vous l'avez souligné. On attend une vraie réforme, que les collectivités territoriales puissent avoir les moyens de mener leur politique en fonction des compétences qui sont les leurs. Il y en a marre, je dirais, de cette façon de voir les choses et de transférer des compétences aux collectivités territoriales en donnant une enveloppe à un moment donné. On l'a vu au travers du tableau sur la taxe professionnelle, où hier nous étions à 1,9 million, et puis au bout de 5 ans, bah, claque, on descend à 1,6 million. Ça sera pareil demain avec la taxe d'habitation, quoi qu'en disent les représentants de l'État. Moi, on n'a jamais vu compétences décalées et puis être menées à bien avec des niveaux de financement qui évolueraient. Donc je crains le pire dans ce domaine-là. Pour revenir à Épernay, aujourd'hui, par rapport aux projets qui nous sont proposés, on l'a toujours dit, il y a un certain nombre de points sur lesquels nous ne remettrons pas en cause les orientations. C'est notamment le musée, c'est notamment la réfection de la rue Jean Jaurès. Nous l'avons réclamé de notre côté à plusieurs reprises. C'est pas maintenant que les choses vont se mettre en route que nous allons y apporter une quelconque contradiction ou opposition. Alors, ne pas apporter contradiction ou opposition, ça n'empêche pas d'être au courant. Je crois que ça a fait débat lors du dernier conseil municipal. Par contre, nous sommes inquiets par rapport à, effectivement, les moyens qui sont mis en œuvre, notamment sur le personnel, la réduction du personnel, l'aide déjà, je dirais, dans ces normes de calcul jusqu'en 2027 en comptabilisant les départs. Qui aujourd'hui est capable de dire quels seront les besoins de notre collectivité en 2027? Moi, ça me semble un petit peu prématuré de tirer quelques plans sur la comète au cours de ce débat d'orientation.
Si vous permettez, Monsieur Angers, sur le graphique, c'était pas c'était les perspectives de départ, ce qui ne veut pas dire que tous les emplois ne seront pas supprimés. La programmation des départs, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront pas, ils sont peut-être tous.
Je ne remets pas en cause la nature du graphique ou la qualité du graphique. Ce que je remets en cause, c'est le fait qu'on vienne nous présenter ça dans un débat d'orientation budgétaire qui concerne les orientations de 2018 et en se mettant en perspective. Et je vous dis, qui est en mesure, en plus ça dépasse, je dirais, notre champ de compétences par rapport au mandat qui est le nôtre aujourd'hui, qui est en mesure de dire quels seront les besoins de notre collectivité dans 10 ans et je dirais dans quel ordre relationnel nous serons, notamment avec la communauté d'agglomération. Est-ce que ces niveaux de mutualisation continueront ou pas? Aujourd'hui, ça me semble un peu prématuré de voir ça. Mais simplement, et vous l'avez très bien souligné au travers de la réponse que vous avez fait à l'organisation syndicale en votre qualité de président de l'agglomération, vous soulignez le fait que les agents, que ce soit des agents communaux ou intercommunaux, ont été soumis au cours de cette année 2017 à une pression importante compte tenu de la modification du paysage institutionnel avec la création de PCI, avec la montée en charge des régions parfois éloignées de notre, je dirais, de notre cœur d'action. Donc, aujourd'hui, faire en sorte que, au travers de ce débat d'orientation budgétaire, on nous présente les effets sur la réduction du personnel comme étant un élément qui soit positif, moi, ça m'interpelle un petit peu. Moi, ce que je retiens, et ça a été souligné par Marc Lefebvre, c'est que Épernay est une ville qui conjugue à la fois des gens qui ont un faible niveau de revenus et puis d'autres qui sont en situation de revenus importants. Et on va le voir encore tout à l'heure avec une délibération qui concerne un mécène. Et je dirais que c'est fort heureux qu'on puisse avoir des mécènes qui, rapportent ou recyclent de l'argent et plutôt, vaut mieux voir plutôt cette orientation-là que d'autres qui partent dans des paradis papers ou autres. Donc c'est plutôt une bonne formule, ce retour de l'argent local vers des initiatives locales, mais ça traduit bien aussi, de manière très nette, de manière très évidente, je dirais, le décalage qui peut exister entre la fiscalité des entreprises et puis celle des ménages qui, aujourd'hui, sont quand même largement impactés à l'échelle locale, tout du moins pour ceux qui sont encore contributeurs et qui le seront encore plus à l'issue de la réforme qui est en cours. Donc voilà, donc maintenant on va attendre effectivement que tout cela se traduise en chiffres par rapport au budget que vous nous présenterez au mois de janvier. Mais moi je retiens quand même une chose, les orientations budgétaires, c'est certes un débat très, très technique, c'est une chose. Ce qui importe, c'est de savoir pour quelle politique on met en face ces crédits. Vous nous parlez de désendettement, très bien. Nous, on souhaiterait que la politique qui soit menée dans cette ville soit encore plus ouverte aux populations, qu'elle permette de corriger le manque d'attractivité de nos territoires dont on parlait tout à l'heure, qu'on s'inscrive réellement dans une politique de transition énergétique avec de la création d'activités, avec du dynamisme lié à cela sur le territoire. Donc je pense que c'est à la lecture de ce budget, mais également à sa définition politique, que nous nous attacherons dans les prochaines semaines.
Merci. D'autres interventions ? Madame Perrin.
Oui, bonsoir. Nous, on votera contre, car c'est un budget d'un conformisme affligeant. Vous nous expliquez continuellement, et ce n'est pas original du tout, la lignée austéritaire, hein, qui sous-entend de faire mieux avec moins. La radieuse efficience à la mode, elle est partout, et on voit qu'elle fonctionne nulle part. En 1974, c'était le chancelier Schmitt qui nous prédisait que les profits d'aujourd'hui seraient les emplois de demain. On voit aujourd'hui ce que ça a donné. C'est d'une inefficacité. Pour faire mieux, au mieux, il faut au minimum autant de moyens que l'on utilise mieux. Mais dans les faits, il en faut plus que l'on utilise au mieux. Tout le monde le sait, même si certains font mine de croire le contraire. Vous faites partie de ceci, vous l'assumez. Vous savez que nos services seront moins bons, mais là, ce n'est pas l'essentiel pour vous et votre majorité bien alignée derrière vous. Le service public, ce n'est pas votre souci, comme le bien-être de vos salariés d'ailleurs. Lorsque cette efficience devient l'alpha et l'oméga de toute réflexion, on tombe dans le piège de la fermeture ou de la privatisation. C'est cette même logique ni de gauche ni de gauche qui préside à la limitation du nombre des médecins, responsables de la pénurie des généralistes et de certaines spécialités. C'est cette pleine efficience magique qui provoque par manque d'entretien les pannes et retards à la SNCF. On peut décliner le même constat pour la santé, les fermetures de lits et les services de notre hôpital de proximité. Quand le réel est à ce point falsifié, la farce ne peut qu'être mauvaise dans la vraie vie. Cela ne fonctionne pas, que ce soit Épernay ou ailleurs. Voilà, on sait que l'État transfère depuis des années plus de compétences aux administrations territoriales tout en réduisant leurs moyens. Mais c'est aussi à nous de nous retourner contre ça et l'association des maires, entre autres, et des maires rurales en particulier, a lancé sur cette question des pétitions et des actions. Je me vois cependant de vous féliciter pour le maintien cette année pour les enfants à l'école.
Les rythmes scolaires.
Des rythmes scolaires, mais j'ai cru voir que vous alliez la supprimer en 2018-2019.
Pour une fois que vous me félicitez, c'est un peu dommage.
C'est éphémère, parce que je ne vous félicite pas de les fermer à la rentrée prochaine. Pour terminer, je vais une nouvelle fois insister, et nous aurons à y revenir souvent en 2018, sur le climat social provoqué par vos budgets et par la mauvaise pente piste dans vos négociations avec le personnel de la ville et de l'agglo. Nous proposerons à nouveau qu'une partie des millions économisés sur le dos des services soit conservée pour le fonctionnement afin de maintenir les avantages acquis de nos personnels, améliorer leurs conditions de travail et leur permettre d'assurer les missions qui sont les leurs avec la qualité que leur conscience professionnelle réclame. S'il ne devait y avoir qu'une raison à notre vote négatif, ce serait bien ce point crucial.
Merci. Est-ce qu'il y a encore des interventions ? Madame Demange.
Merci, Monsieur le maire. Je voudrais juste saluer l'initiative du budget participatif. Et j'aimerais avoir le programme de voirie. Vous parlez de l'avenue Jean Jaurès. Je voudrais savoir s'il y a autre chose au niveau de la voirie. Merci.
Pas d'autres demandes de parole ? Bien, je vais répondre. Je vais essayer de répondre en tout cas à la plupart des questions. Je vais commencer par la fin. Madame Demange, bon, le budget participatif, c'est effectivement une initiative nouvelle qui a plutôt été, on peut le dire, couronnée de succès. On a eu plus de 900 votants et au total 6 ou 7 projets. 6 projets retenus qui tiennent dans l'enveloppe. Et je pense que les Sparnassiens ont adhéré à cette idée qui sera évidemment renouvelée, même s'il faudra peut-être faire évoluer les choses en fonction des retours qu'on a pu avoir. En tout cas, c'est une initiative intéressante. Concernant le programme voirie, vous l'aurez en fait au budget, hein, puisque c'est à cette occasion-là qu'on le présentera dans le détail, puisqu'il nous faut encore harmoniser nos positions concernant des arbitrages à faire sur certaines des rues qui, si elles ne sont pas faites au cours de l'exercice qui vient, seront sans aucun doute faites dans l'exercice suivant. Mais nous attendons de ce point de vue les retours des liens, des relations avec la communauté d'agglomération également. Pour revenir à ce que disait Madame Perrin, bon alors vous jugez le budget d'un conformisme affligeant, pour reprendre votre expression. Évidemment, je ne partage pas ce point de vue. Vous nous reprochez d'oublier le service public et d'en faire en quelque sorte une variable d'ajustement. Or, chaque année, je crois pouvoir le dire, on investit des sommes extrêmement importantes dans le service public. Réouvrir un musée, c'est aussi faire un investissement au service du public et du service public, puisque ce sera bien un service public qui va nous permettre de mettre en évidence les collections d'archéologie et les collections liées au vin de Champagne. Donc ça prouve bien que votre argument est avant tout dogmatique, mais ne se fonde pas sur la réalité que nous pouvons observer. Concernant les remarques de M. Angers, je vais pouvoir répondre en même temps aux autres concernant les questions liées au personnel. On a effectivement, et Christine a effectivement présenté les perspectives liées à la démographie du personnel municipal. Il ne faut pas y voir autre chose qu'un élément d'information qui semblait intéressant dans la mesure où ça fait partie des éléments structurants du budget. Mais évidemment, quand on voit 20 départs ou 23 départs dans quelques années, 20 départs, ça ne veut pas dire que ce sera 20 départs qui ne seront pas compensés. Évidemment, une administration a besoin de fonctionner avec un minimum d'effectifs. Les besoins évoluent. On sait très bien que si dans certains domaines aujourd'hui, grâce à l'informatisation, à la réorganisation, à la mutualisation, on arrive à économiser des postes, dans le même temps, on va en créer dans d'autres domaines. Christine a cité le musée, où il va falloir reconstituer des équipes. Il va falloir peut-être aussi redéployer des effectifs en formant nos personnels pour que demain, ils puissent travailler dans un équipement ouvert au public et qui a vocation à accueillir de nombreux visiteurs. Donc on est dans un périmètre qui est constamment mouvant, avec dans certains secteurs des effectifs qui ont tendance à baisser, dans d'autres donc, qui ont tendance à croître. Et en même temps, nous nous astreignons à des efforts importants en matière de gestion, parce que dans la mesure où nos recettes n'augmentent pas, pour les raisons que vous savez, puisque l'État n'a cessé de faire les poches des collectivités depuis plusieurs années maintenant, il nous faut bien trouver des pistes d'économie, sinon nous serions contraints tous les ans d'augmenter les impôts, ce que nous ne faisons pas. Effectivement, il se peut que les impôts que les Sparnassiens payent évoluent très légèrement d'une année sur l'autre par le seul effet des bases fiscales qui ne sont pas votées par le conseil municipal, mais les taux, c'est-à-dire le pouvoir que la collectivité a sur la fiscalité, eux, n'évoluent pas. C'est le signe que nous nous astreignons, que nous nous obligeons, en quelque sorte, à respecter cet objectif qui avait été clairement annoncé. S'agissant de la situation des personnels maintenant, La question a été évoquée à la suite d'un courrier adressé par un représentant syndical de la communauté d'agglomération. C'est vrai que l'année 2017 a été un peu particulière et ce serait de la mauvaise foi que d'affirmer le contraire. On vient de subir une année assez particulière parce qu'on a fusionné deux communautés de communes pour faire une communauté d'agglomération. On a donc créé une communauté d'agglomération, ce qui a complètement bouleversé notre système fiscal et financier, engendrant par là même un travail extrêmement important. On a continué à mutualiser les services et c'est quelque chose qui s'opère un peu partout en France aujourd'hui. Et en plus, on a dématérialisé beaucoup de procédures, puisque l'État nous impose aujourd'hui de dématérialiser l'ensemble des actes des collectivités. Et donc tout cela crée, j'allais dire, de la tension, crée un certain nombre de problèmes qu'on n'avait pas avant, mais c'est un moment particulier à gérer. Ce ne sera pas tous les ans qu'on fusionnera avec une autre collectivité. Une fois qu'on se sera mis à la dématérialisation, on va retrouver un rythme de croisière, un rythme de fonctionnement normal. Et pareil pour la mutualisation, puisque pour l'instant, il n'y a pas de mutualisation qui se profile, en tout cas de manière significative. Et donc, on va pouvoir aujourd'hui, en 2018 en tout cas, retrouver un peu de calme pour aller au fond des choses et ne pas accumuler les dossiers complexes, qui a été le cas de l'année 2017. Donc, je persiste à penser que la proposition d'un audit n'est pas nécessaire. C'est tout simplement le rythme de l'actualité qui a peser sur la vie de nos collectivités, que ce soit la ville, que ce soit la communauté d'agglomération, et c'était assez normal compte tenu de la densité des nouvelles choses à digérer. Maintenant, les choses vont retrouver un rythme plus normal, et ce qui va sans aucun doute contribuer à détendre un peu l'atmosphère, même si l'atmosphère reste tout à fait correcte. Il y a des tensions ça et là, il y a des difficultés ça et là, mais globalement, l'administration est en état de marche et je me félicite d'ailleurs de l'implication personnelle de l'ensemble des agents pour nous permettre de faire avancer les différents dossiers qui sont les nôtres. Sur la situation, Monsieur Lefebvre, vous me reprochez de ne pas parler de la population, du taux de chômage, des situations de pauvreté, etc., tout simplement parce que ce n'est pas le sujet. On est là sur un document d'orientation budgétaire, comme son nom l'indique, qui concentre l'attention sur les aspects budgétaires. On pourra, lors du budget, évoquer cette question et se rendre compte des efforts qui sont faits par la collectivité dans le domaine de la politique sociale, notamment s'agissant des populations en difficulté qui existent à Épernay, s'agissant de l'investissement qui est fait dans un certain nombre de quartiers, des investissements qui sont faits en matière de logement, autant de questions qui pourront s'exprimer plus profondément dans le cadre du budget prochain. Concernant l'évolution globale des effectifs, elle est en baisse légère pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Je ne sais pas si on a le chiffre sur les emplois aidés. Je ne l'ai pas là, mais je vous le communiquerai. Mais bon, on examine la question des emplois aidés avec attention parce que ça a évidemment ému un certain nombre d'élus, mais on ne faisait pas partie, en ce qui nous concerne, des communes qui avaient choisi d'organiser les rythmes scolaires à partir d'emplois aidés. C'était des emplois ou de vacataires, mais en aucun cas des emplois aidés, tout simplement parce que ça ne correspondait pas à l'esprit de la réforme. Il nous arrive d'avoir des emplois aidés, on continue d'en avoir, on a également des emplois civiques, et on fait toujours en sorte de faire que cette expérience au sein des services municipaux soit une expérience positive. On vient d'ailleurs de passer à l'apprentissage tout récemment sur des emplois assez techniques, l'objectif étant, à défaut de pouvoir embaucher plus que nos besoins, d'essayer de faire en sorte qu'un passage dans nos services soit une expérience professionnelle qui permette de mettre le pied à l'étrier de la personne qui en bénéficie. Et je ne pourrais pas vous donner, mais je pourrais rapidement vous l'indiquer à titre d'information, mais il se trouve qu'un certain nombre d'agents qui sont aujourd'hui chez nous sont entrés dans la collectivité par les emplois aidés. Preuve s'il en est que il n'y a pas volonté d'en faire la voie d'entrée principale, et vous comprendrez les raisons pour lesquelles, mais en même temps il n'y a pas d'ostracisme en la matière. Si à l'occasion d'une embauche dans le cadre d'un emploi aidé, une personne fait ses preuves et a la chance d'arriver à un moment où un emploi est à pourvoir, il est régulier que ce type de personnes, donc bénéficiant au départ d'une entrée chez nous par l'emploi aidé, puissent bénéficier d'un emploi stable, ce qui évidemment récompense les efforts de la personne. Elle s'en félicite en général et nous nous en félicitons également parce que ça prouve que ça a marché, même si c'est évidemment pas la solution, la clé du succès face au problème du chômage. Concernant la répartition de l'investissement sur le musée, alors l'investissement sur le musée sera bien supérieur aux 2 millions d'euros qu'évoquait Marc Lefebvre, puisque 2 millions d'euros, c'est le montant d'emprunt en plus qu'on va solliciter en 2018 par rapport à 2017, mais le montant de l'investissement concernant le musée devrait avoisiner la dizaine de millions d'euros. On en saura plus dans quelques jours, donc on en reparlera au budget au cours de cet exercice, pour la simple et bonne raison qu'on rentre dans le dur à partir du mois de mars. Se termine au mois de février-mars à la fois le centre de conservation et immédiatement terminé. Ce centre de conservation va pouvoir accueillir l'ensemble des œuvres qui se trouvent au musée aujourd'hui dans les réserves pour qu'on attaque véritablement le gros œuvre du musée. Donc cette année et l'année prochaine seront les deux grosses années concernant le budget du musée. Le budget global du musée est de l'ordre de 17 millions et quelques hors taxes, ce qui nous amène à un peu plus de 20 millions d'euros. C'est essentiellement sur les années 2017 et 2018 que cet effort reposera. Donc vous aurez évidemment au moment du budget, c'est-à-dire dans grosso modo un mois, l'ensemble des chiffres en la matière. Concernant un point d'accord, vous me permettrez peut-être de terminer avec ça, et c'est un point d'accord avec les propos qu'a tenu notamment Jean-Paul Anger concernant effectivement la situation de l'État à l'égard des collectivités. La décentralisation date de 82, 84, 86, c'est les grandes années de la décentralisation. À l'époque, c'était un sujet qui faisait, qui cristallisait les oppositions. Aujourd'hui, tout le monde admet que la décentralisation était une grande avancée dans la manière d'administrer le pays. Je crois pouvoir dire que partout sur le territoire, partout où l'État a confié les responsabilités aux collectivités, d'abord jamais il les lui a retirées, ce qui prouve quand même qu'il n'y a pas eu de regret de ce côté-là et que globalement les collectivités ont mieux géré les dossiers qui leur incombaient que l'État, pour la simple et bonne raison qu'une proximité avec le terrain, avec les attentes des différents acteurs du terrain, à mon avis, renforce la qualité de la gestion publique. Et je regrette de ce point de vue que l'État soit effectivement toujours dans cette espèce de situation antagoniste ou paradoxale où, d'un côté, il en donne toujours plus à faire aux collectivités et, de l'autre côté, il leur retire toujours plus de moyens. Donc, on l'a senti lors du dernier congrès des maires de France, lors des derniers congrès des maires de France, puisque depuis au moins 8 ou 10 ans, ces congrès sont assez houleux, compte tenu du fait que tous les élus, quelle que soit leur sensibilité politique, considèrent que cette situation doit cesser. Ou on fait confiance aux collectivités, on leur donne les moyens, en tout cas on garantit leurs moyens, et ça leur permet d'œuvrer dans le sens de l'intérêt public, ou alors on cesse de leur donner des missions supplémentaires. Mais effectivement, on ne peut pas constamment leur donner plus de responsabilités, leur retirer les moyens, ce qui a été la politique de la plupart des gouvernements ces dernières années. Et quand je dis ces dernières années, je remonte facilement à 10 ans ou 12 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas trop sur quel pied danser, parce que après les annonces qui ont ému le monde des collectivités, le gouvernement actuel semble faire au moins en partie marche arrière. En tout cas, ce qui semble important, c'est d'admettre que les collectivités jouent aujourd'hui un rôle central dans la vie administrative, politique de notre pays. Quelles sont aujourd'hui la première force d'investissement, bien avant l'État, ce qui contribue à soutenir la croissance du pays, et que le temps où on passait notre temps à critiquer, enfin où certains passaient leur temps à critiquer les élus caricaturant leur gestion, en dénonçant, vous vous souvenez de ces reportages sur les grands palais qui avaient été créés, etc. C'était, entre nous soit dit, tout à fait anecdotique par rapport à la réalité du travail qui a été réalisé par les collectivités, quelle que soit leur sensibilité politique, elles ont agi dans l'intérêt de leurs citoyens, de leur territoire, et globalement, on a plutôt une administration territoriale de la République qui fait honneur à notre pays et qui fait plutôt modèle, enfin, qui fait plutôt office de modèle à l'extérieur que le contraire. Donc je pense qu'il est important que les choses restent ainsi et que nous puissions continuer à agir durablement pour l'intérêt de nos territoires. C'est en tout cas l'état d'esprit qui anime notre équipe municipale. Je vous donnerai les chiffres que vous avez demandé concernant les emplois aidés. Les privatisations, pas de privatisation en perspective. Il y a parfois de l'externalisation qui est faite, mais ponctuellement. Il n'y a pas de principe absolu en la matière. Je fais la même réponse que j'ai faite à M. Angers à plusieurs reprises et à la communauté d'agglomération. S'il apparaît demain que réintégrer le secteur de l'eau est plus pertinent, on le fera. Donc ça peut être dans ce cas-là une réintégration de services externalisés. S'il apparaît en sens inverse que des services sont mieux délivrés par le privé que par le public, j'ai pas de réticence à le faire dans ce sens-là. Ça a été le cas, vous le savez, pour le restaurant scolaire. Aujourd'hui, on a pratiquement, pour ne pas dire aucune critique sur la manière dont le service est géré. Tout le monde est plutôt content. S'il en était pas ainsi, on changerait notre position. Mais quand le privé est performant, faisons-lui confiance. Quand le public est performant, faisons-lui confiance. Simplement, le public ne peut pas tout faire et le privé ne peut pas tout faire. Donc ma position et notre position, c'est d'être pragmatique. À partir du moment où les résultats sont là, il n'y a pas de raison de bouleverser un mode de gestion et il n'y a pas de raison non plus de systématiquement privatiser le privé ou de systématiquement privilégier le public. Je pense que chacun a sa vocation et c'est probablement par un compromis entre les deux formules qu'on arrive à avoir le résultat le plus satisfaisant. C'est en tout cas, là encore, l'état d'esprit qui nous guide. Voilà pour les réponses. Pas d'autres questions dans cet égal. Oui, Christine.
Quelques précisions par rapport aux questions de M. Lefebvre, par rapport aux effectifs, puisque vous évoquiez 585 agents sur le document que vous avez en votre possession, et moi j'ai parlé de 580. Donc le delta de 4, il s'agit d'agents remplaçants, donc qui ne figurent pas, moi, dans le document que je vous ai présenté. Voilà la différence. Et en ce qui concerne les agents transférés, il s'agit bien, depuis le 1er janvier 2016, donc depuis la date de la mise en place des services communs, de 26 agents municipaux qui ont été transférés à l'agglo. Ensuite, donc ça, c'est un transfert de plein droit, parce que les agents effectuent la totalité de leur activité au sein du service commun. Pour autant, il y a bien sûr des agents municipaux qui sont mis à disposition de l'agglo pour une partie de leur temps de travail. Mais en ce qui concerne le transfert donc d'agents municipaux qui sont devenus agents communautaires, il s'agit bien d'un effectif de 26 à ce jour.
Et on peut indiquer que ça n'a pas engendré de transfert de charges, c'est-à-dire
pas
que...
du tout, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça revient, on a un transfert. Enfin, en tout cas, la ville reverse à l'agglo 1,1 million qui correspond aux heures de travail effectuées par les agents, donc le travail qu'ils effectuent au titre de la ville d'Épernay. Donc ça, c'était le premier point. Et puis en ce qui concerne les mouvements, puisque en ce qui concerne, vous me disiez, les départs en retraite, etc. Donc en ce qui concerne les prévisions donc pour 2018, donc les départs à la retraite, 6 sont prévus, 3 seront remplacés. Il y aura des départs également pour d'autres motifs, que ce soit mutation ou fin de contrat. Donc 9 départs, 6 seront remplacés. Et puis, comme évoqué, la création d'un poste pour le musée qui devrait être effectif au dernier trimestre de l'année 2018.
Et très certainement d'autres postes
bien
pour
sûr,
le musée dans le courant
suivront.
De l'année. Plus on va approcher de l'ouverture, évidemment... plus on aura de création de postes dans le domaine du musée, puisqu'il faudra bien que ce musée fonctionne avec du personnel
titulaire.
Là, il responsable
d'accueil et de la boutique, et de façon à ce qu'il puisse prévoir justement l'organisation. Et c'est pour ça qu'il sera recruté fin 2018.
Bien, je vous propose donc d'acter du déroulement de... Pardon, allez-y, oui.
Je voulais savoir, si c'était possible d'avoir le même type d'organigramme que celui qu'on a eu pour l'agglo.
Pour les services de la ville, vous voulez dire ? Oui, moi, je ne vois pas d'inconvénient. J'avoue que je n'ai pas vu celui passer de la communauté. J'en ai vu tellement passer que je ne sais pas quelle est la dernière version que vous avez eue. Mais oui, sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Donc, je vous propose de... Oui.
J'ai
question, et vous n'avez pas répondu ce soir, sur le coût de la plateforme du ballon. C'est en régie par la...
On l'a évoqué lors d'un dernier conseil, j'ai plus le montant en tête, je sais pas...
Puisque c'est listé dans les investissements, donc ça doit avoir un certain coût.
Dans le marché est en cours, hein, il n'est pas attribué.
Ah oui, c'est pour ça. Oui, on a... Oui, tant que le marché n'est pas attribué, on ne peut pas donner le chiffre par définition.
Ah, je croyais que c'était commencé, c'est pas commencé.
Non. Le périmètre a été défini, mais on attend effectivement l'attribution, mais je crois que c'est cette semaine. Ces jours-ci, hein. Après-demain. Donc, après-demain, on pourra vous donner le chiffre. Enfin, dans quelques jours, on pourra vous donner le chiffre. Mais à ce jour, on ne connaît pas le montant exact, même si on a une idée des estimations qui ont été effectuées par nos services. Bien, je vous propose donc d'acter que notre débat d'orientation budgétaire a eu lieu, puisque c'est la loi qui nous l'impose. Et je vous propose de passer tout de suite au rapport suivant, rapport 3A. C'est bien ça ? 3A, ça concerne donc le programme d'investissement d'avenir, appel à manifestation d'intérêt territoire innovant de grande ambition. Et il s'agit d'un accord concernant la constitution d'un consortium et d'un groupement d'intérêt public. Le Grand Reims, mes chers collègues, a impulsé et porté une candidature InnoBioEco dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Ce projet rassemble, on a eu l'occasion de l'évoquer il y a quelques jours à la communauté d'agglomération, 22 partenaires institutionnels, académiques, agricoles et économiques, dont notre territoire. La grande ambition de la candidature est de s'appuyer sur ses atouts afin de transformer fortement et durablement le territoire en lui permettant d'atteindre un bilan carbone positif. Le projet a été présélectionné. Nous attendons la réponse, je ne vais pas dire d'une minute à l'autre, mais en tout cas d'un jour à l'autre. Dans l'hypothèse d'une suite favorable donnée à cette candidature et sous réserve du soutien apporté au projet InnoBioEco, l'agglomération doit se prononcer sur les documents qui vous ont été fournis et je souhaitais donc également porter à votre connaissance cette délibération, sachant que je pourrais, si vous m'en donnez le pouvoir, être autorisé à signer l'accord de consortium projet Terrabio ou encore la convention constitutive du groupement d'intérêt public selon la forme que prendra cet engagement une fois celui-ci approuvé par les pouvoirs publics. Donc on a eu ce débat déjà il y a quelques jours en communauté d'agglomération. On ne peut, à mon sens, que se réjouir de voir l'ensemble des acteurs publics et privés se mobiliser autour de la bioéconomie qui constitue, à n'en pas douter, un axe fort du développement de notre territoire. Et je ne doute pas de votre soutien sur ce dossier. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Lefebvre ?
Je voulais savoir si le CVC, le syndicat des vignerons, avait été contacté pour participer à...
Alors, syndicat des vignerons, non. Je crois que c'est le comité champagne qui a été contacté, puisque c'est l'interprofession qui est concernée. Et il était plus logique, effectivement, que ce soit le comité champagne plutôt que le syndicat des vignerons. Sur ce rapport, pas d'opposition ? Pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3B. Christine Mazzi.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit dans cette délibération de reconduire les conventions de services mutualisés pour une durée de 3 ans, puisque cette durée de 3 ans coïncidera avec la fin du schéma de mutualisation qui a été mis en place. Donc, les différents services communs, je ne vais pas les relister puisqu'on vient d'en parler, précédemment. Donc, en annexe, vous avez les 10 projets de convention qui précisent pour chaque service les modalités de fonctionnement, la résidence administrative ainsi que les conditions financières. Donc, rien de bien nouveau, simplement deux remarques. Donc, un agent du service informatique qui, jusque-là, avait été maintenu au sein des effectifs villes, puisque son poste était notamment dédié à tout ce qui était gestion informatique des écoles. Donc, il n'y avait pas lieu jusqu'à présent de le transférer à l'aglo, puisque la communauté n'avait pas la compétence, la CCEPC, la communauté d'aglo qui a cette compétence scolaire, donc a vu la nécessité de transférer cet agent au sein du service commun. Donc, il sera transféré à compter du 1er janvier. Donc, bien évidemment, l'agent a été informé et son transfert se fait à rémunération équivalente. Il est proposé également de reconduire une convention qui permet à la communauté d'agglo de solliciter l'intervention de certains services techniques de la ville d'Épernay en cas de besoin.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3C. Christine.
Donc, concernant la mise en place du RIFSEP, qui est le nouveau régime indemnitaire mis en place, donc depuis 2016, la ville d'Épernay a adopté donc cette mise en place du RIFSEP. À ce jour, les adjoints techniques, les agents de maîtrise et les adjoints du patrimoine peuvent bénéficier de ce régime indemnitaire, puisque la mise en place se fait au fur et à mesure des arrêtés. Donc, trois catégories sont donc concernées. Et le règlement du RIFSEP qui est joint à la présente délibération a été actualisé en conséquence.
Merci. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3D concernant l'adhésion à un contrat groupe assurance statutaire du personnel. Toujours Christine.
Donc la ville d'Épernay a par délibération en date du 20 mars 2017 demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne de négocier par voie de consultation obligatoire un contrat d'assurance statutaire qui garantit les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes qui régissent le statut des agents. Le marché a été attribué au groupement d'entreprises composé de la compagnie CNP d'assurance et du courtier Sofaxis. Pour les mêmes prestations que nous avions précédemment, la collectivité enregistre un gain, on peut l'appeler comme ça, de 20 000 euros, d'où la valeur ajoutée de passer par un groupement de commandes.
Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3E, modification du tableau des effectifs.
Donc, je vous propose d'approuver la modification du tableau des effectifs tel qu'elle vous est proposée dans le rapport en votre possession. Donc, cela permettra de créer un poste d'adjoint administratif à temps complet pour remplacer l'agent de l'accueil de l'hôtel de ville qui est appelé à de nouvelles missions au sein de la direction générale et de supprimer 93 postes. Alors, de supprimer 93 postes, il ne s'agit pas là d'effectifs. Hein. Soit bien d'accord, monsieur Lefebvre. En effet, tout au long de l'année, des postes ont été créés afin de répondre aux besoins de la ville hein, en termes de promotion, de mutation, etc. Donc ces créations s'accompagnent de la suppression des anciens postes hein, qui n'ont pas été pourvus au cours de l'année. Donc, c'est une délibération que nous passons chaque fin d'année.
Et le solde, il est positif ou négatif ?
Pardon ?
Le solde, il est positif ou
oui,
négatif ?
Oui, positif. Il y
a plus d'emplois supprimés que...
Ce n'est pas des emplois de supprimés, ce sont des postes. D'accord ? Donc, en fait, les agents, quand ils ont des promotions suite à des concours ou des recrutements, un agent qui quitte la collectivité, qui est remplacé, ce n'est pas à poste égal. Donc, on est parfois obligé d'ouvrir un poste pour recruter cet agent et le poste laissé vacant par l'agent qui est parti ou qui a muté, reste ouvert. Donc, on ne le ferme pas systématiquement, d'accord ? Donc, ils sont laissés ouverts tout au long de l'année, et en fin d'année, on ferme les postes.
Oui, mais voilà. au total, au final...
Nous le verrons tout à l'heure, l'effectif...
ont été fermés.
Nous le verrons dans la délibération tout à l'heure, l'effectif a diminué de 7 agents, ce qui correspond à ce qui avait été prévu au niveau du BP 2017.
Pas d'opposition, pas d'abstention, une abstention, le rapport est une abstention ou deux, c'est vous qui avez le pouvoir de monsieur.
Non, c'est Jean-Pierre.
Alors, abstention ou une abstention. D'accord, deux abstentions. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3F, attribution de subvention. Christine.
Donc, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subvention auxquelles je vous propose de répondre favorablement. En attribuant les sommes énumérées dans le rapport en votre possession.
Y a-t-il des questions ? Monsieur Lefebvre.
Je réitère ma proposition concernant les encombrants. Donc, pourrait-on les ramasser pour les personnes âgées ? Exemple, plus de 75 ans. Vous m'avez déjà répondu, mais je repose cette question parce que quelqu'un de votre majorité... semblait dire que ce sera possible dans un avenir assez proche. Je ne sais pas. Alors, si j'ai bien interprété son idée.
Il me semble qu'il y avait un travail qui était fait en la matière.
Il y a un travail qui a été fait, mais pour l'instant, la région, elle le fait juste sur le quartier Bernot, mais peut-être dans l'avenir, donc la majorité, c'était moi,
peut-être dans l'avenir, on travaillera avec la régie et on mettra ça en place, certes, toute la vie des permettre. Mais pour l'instant, comme vous le savez tous, la régie a besoin de...
Oui, la régie est en train, s'est réorganisée en 2017, voilà. Est en train de, je le souhaite en tout cas, d'avoir un second souffle. Et on ne va pas charger la barque trop vite, mais ce serait tout à fait, à mon sens, un service qui pourrait être piloté par la régie. Et je pense qu'effectivement, ce serait un vrai service de rendu aux personnes, notamment qui ont la difficulté de porter des charges lourdes. J'attire votre attention également sur le fait que nous avons mis en place un système d'autopartage qui permet pour le coup, non pas d'éviter le port de charge, mais de bénéficier d'un petit utilitaire. Et je sais qu'un certain nombre de personnes l'ont déjà utilisé pour notamment transporter des colis, parfois des encombrants, enfin des encombrants à la taille du véhicule, à la déchetterie. Et je pense que c'est aussi une manière de permettre à des personnes qui, ou n'ayant pas de voiture, ou n'ayant pas la force physique de porter des objets, d'y avoir accès. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait effectivement déboucher à un moment ou à un autre. Donc on est totalement d'accord sur l'idée.
Bon, il y a beaucoup de choses qui étaient impossibles, qui deviennent au fur et à mesure possibles.
Oui, mais, non,
on
mais,
y reviendra tout à l'heure.
Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies, mais il n'y a pas d'obstacle. On en a parlé déjà plusieurs fois de cette idée. Et je persiste à penser qu'avec notamment le vieillissement de la population, il est important de pouvoir permettre à des personnes âgées de se défaire de choses encombrantes chez elles, qu'elles ne peuvent pas toujours faire reprendre par les livreurs de nouveaux matériels, pour la simple et bonne raison qu'elles n'achètent pas toujours du matériel neuf, ce qui leur permet de se débarrasser de l'ancien. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention, le rapport est adopté. Rapport 3G, Christine.
Donc il s'agit de versement d'avance sur le budget 2018, comme on le fait chaque année. Donc les crédits du compte 65-74, qui correspond aux subventions aux associations, ne seront ouverts que lors du vote du BP 2018. Aussi, afin de ne pas pénaliser les associations et les organismes qui reçoivent des subventions importantes nécessaires à leur fonctionnement, il est proposé d'accorder des avances à prendre sur les crédits à voter ultérieurement.
Merci. Des questions sur ce rapport ? Pas de questions, avis contraire ? Bon, ça, c'est des rapports qu'on passe régulièrement chaque année en fin d'année hein, pour éviter les problèmes de trésorerie. Comme on ne vote le budget que le 18 ou 19 en général du mois de janvier pour éviter ces accidents.
Notamment pour les associations, les organismes qui ont des charges de personnel.
Rapport, donc avis contraire, abstention, le rapport est voté. Rapport 3H, Christine.
Alors il s'agit de créances éteintes sur le budget ville. Le comptable public de la trésorerie d'Épernay a fait parvenir à la ville une liste de titres de recettes qu'il n'a pas pu recouvrer et donc il demande l'extinction des créances pour un montant légèrement supérieure à 14 000 euros. Les créances éteintes, contrairement aux admissions en non-valeur, s'imposent à la collectivité suite à une procédure de surendettement lorsque plus aucune action de recouvrement n'est possible à la suite d'une décision de justice. Ces titres concernent les exercices budgétaires de 2009 à 2016 pour essentiellement des impayés de restauration scolaire ou de goûter. Je vous invite donc à approuver ces mouvements comptables réglementaires. Bon, il s'agit souvent de petites sommes. Hein, mais
Oui. Mais il y a un moment où il faut effectivement épurer toutes les petites lignes qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être malheureusement remboursées. Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Rapport 3I, Christine.
Alors, il s'agit de la décision modificative numéro 5. Donc, quelques valeurs. Vous avez le 7DM en votre possession. Quelques explications concernant le budget ville. Des crédits complémentaires pour la comptabilisation de travaux en régie pour un montant de 429 000 euros. Des crédits complémentaires également pour la cession du terrain Galis et le transfert via une subvention d'équipement au CCAS pour un montant de 360 000 euros. Des transferts de crédits d'investissement au fonctionnement pour la vérification des armoires électriques, donc pour un montant de 12 000 euros. Des crédits complémentaires qui sont dus à l'avenant du marché du linéaire des cellules commerciales de Bernon, pour un montant de 6 000 euros, un transfert de crédit entre les études et les travaux pour le centre de conservation suite à un avenant, pour 50 000 euros, des crédits complémentaires pour la comptabilisation des admissions en non-valeur pour 35 000 euros, dont les créances éteintes, des crédits complémentaires pour la comptabilisation de provisions de contentieux de personnel. En ce qui concerne le budget parking, un complément de crédit au chapitre 012, il s'agit d'un montant de 24 000 euros pour le renfort par un contractuel pour le remplacement d'un agent. Sur le budget camping, des crédits complémentaires pour la comptabilisation de travaux en régie pour un montant de 10 800 euros qui correspond à la création d'un abri vélo. Sur le budget chauffage, le remplacement de l'emprunt en subvention d'équipement de la ville vers le budget annexe pour un montant de 15 000 euros. Et en ce qui concerne le budget des cellules commerciales de Bernon, l'annulation des crédits non consommés pour un montant de 162 000 euros.
Merci. Des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 3J, toujours Christine.
Dans le cadre du plan de financement du projet de résidence autonomie, une subvention d'équipement devait être proposée au BP 2018 de la ville afin de financer une partie de ce projet. Je vous propose donc d'adopter le versement d'une subvention d'équipement de 360 000 euros au profit du CCAS.
Merci. Je ne sais pas si ce rapport a été, si le projet a été présenté. Il a été évidemment par le CCAS au sein de ses instances, mais il serait quand même bien que les commissions municipales, notamment la commission cadre de vie, puisse étudier ce rapport, parce que la création de cette résidence senior est un élément important des projets municipaux qui vont voir le jour dans les prochains mois. Donc si on pouvait à la prochaine commission cadre de vie, de manière à ce que les conseillers qui ne sont évidemment pas membres du CCAS puissent avoir un regard, et plus qu'un regard, sur ce projet très intéressant. Sur ce rapport, pas de questions. Comment ?
C'est ce que j'avais demandé l'an dernier.
Ça a déjà été présenté ? Je ne savais pas. Comme c'est un projet CCAS, il arrive que certains projets CCAS soient évoqués.
C'est une bonne idée, mais ça avait déjà été présenté à la commission cadre de vie, et comme je le répète à chaque fois, vous n'étiez pas présent. On vous avait invité. Bon. Si c'est vrai, c'est une bonne idée de le refaire.
Alors, Marc. Non, mais Marc.
Ah non, mais c'est pour ça qu'on a choisi cette date.
On pourra le représenter, mais ça a déjà été fait. Mais cela dit, on pourra le refaire, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci.
Et
soucis.
On inscrira dans le compte rendu ce qu'on ne faisait pas avant.
La majorité a certains projets qui sont présentés, comme on l'a dit encore en dernière commission.
Mais Marc, nous le ferons. Et nous veillerons à ce que soit bien précisé au compte-rendu ce qu'on ne faisait pas avant dans les présentations.
Bien, sur ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3L, Jacques Fromm.
Merci, il y a monsieur.
Ah, je l'ai oublié ?
Les tarifs.
Ah, pardon. J'ai dû sauter une page. Ouais. Alors, 3K.
Donc, le rapport 3K.
J'ai sauté la page du rapport.
Ouais. Comme chaque année à la même époque, il convient de procéder à l'examen des tarifs municipaux. Aussi, je vous propose d'appliquer à compter du 1er janvier 2018 les tarifs tels qu'ils résultent des tableaux qui sont annexés au rapport en votre possession.
Globalement, l'évolution moyenne est de plus 1%, avec des arrondis aussi qui nous amènent parfois un peu au-delà, mais aussi avec de nombreuses exceptions. Certains tarifs restant stables et plusieurs diminuant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le stationnement sur voirie? On est stable depuis 2011 sur les zones rouges et vertes. On introduit, c'est un élément important, le fameux forfait post-stationnement. Vous savez que on avait délibéré sur le sujet, mais toutes les collectivités de France ont été amenées à fixer un tarif de forfait post-stationnement. La moyenne se situe, selon le GART, qui est le groupement des autorités responsables des transports en France, entre 25 euros et 35 euros. Elle est de 16,50 euros chez nous, tout simplement parce qu'on avait pris l'engagement de ne pas augmenter par rapport au tarif précédent, qui était le tarif unique de 17 euros. On a une augmentation de 2 euros de l'abonnement hebdomadaire en zone verte pour le rapprocher de celui des parkings, qui est de 24 euros. Au niveau des parkings, on a fait en sorte d'avoir aujourd'hui un tarif identique entre le parking du Jard et le parking centre-ville, parking couvert centre-ville, ce qui nous a permis de faire glisser de l'un vers l'autre un certain nombre de véhicules. les abonnements étant au même tarif d'un côté et de l'autre, et les usagers ayant l'avantage d'avoir leur voiture à l'abri, ce qui, en période hivernale, n'est pas forcément inintéressant. Vous aurez noté également qu'on a fait, mais ça ne concerne pas les tarifs de stationnement, qu'on a positionné, comme c'était prévu au budget, une nouvelle signalétique dynamique indiquant et fléchant le stationnement, indiquant d'une part que il y a des places, que les parkings sont ouverts, et deuxièmement qu'il y a de la place libre, parce que le problème, le centre-ville doit, les commerçants et les utilisateurs du centre-ville doivent prendre conscience qu'on a encore aujourd'hui des réserves de stationnement importantes, et que même quand les personnes tournent pensant qu'il n'y a pas de place en centre-ville pour se garer, il y a des possibilités en souterrain, et je pense qu'il faut que tout le monde en ait pleinement conscience. Y a-t-il des questions sur ce rapport, Monsieur Lefebvre?
Oui, c'est trois petites remarques. Donc, à la page 3, le stationnement des taxis, vous avez supprimé au mois et obligatoire à l'année. Est-ce que c'est une décision municipale ou réglementaire nationale?
C'est pas page 3. Page 3, c'est les marchés.
Non, mais... Oui, mais c'est plus loin, alors je vais faire une
erreur. Ah oui, c'est page 2. Page 2. Jacques ?
C'est une demande.
Une demande des taxis ?
Oui, si c'est page 2, oui. Bon, c'est à leur demande.
Oui, d'accord. Semble-t-il.
La deuxième remarque, j'ai découvert, peut-être que je passe à côté les autres années, vous faites un forfait pour les hôtels au parking, donc les résidents d'hôtels paient des parkings peu élevés alors. Là, je vois 24, pour 24 heures, 7 euros, pour 2 jours, 13 euros, et pour 3 jours, 16 euros. Ouais.
Ça date depuis l'origine, la création de l'hôtel Ibis. Il y a donc
je me déplace beaucoup dans beaucoup de villes, à la France et à l'étranger, je n'ai jamais vu ça encore.
Ah si. Si, si. Pour être un utilisateur des parkings du groupe Accor dans le cadre de mon mandat régional, vous avez toujours la possibilité ou de payer directement le parking souterrain ou le payer par l'intermédiaire de l'hôtel qui, généralement, négocie des tarifs à l'année puisqu'ils utilisent beaucoup de place. Et ça vous permet, généralement, en le payant à la caisse de l'hôtel plutôt qu'à la caisse du parking, d'avoir un peu de réduction parce que, forcément, achetant des milliers d'heures d'utilisation, ça coûte moins cher.
Oui. Et puis, dernière remarque, là, c'est... je l'avais proposé il y a peut-être 4 ou 5 ans, l'accès au Sanisette gratuit. Alors, à cette époque-là, c'était vraiment impossible, ça coûtait très cher, etc. Et maintenant, c'est possible. C'est extraordinaire. Merci, monsieur le maire, pour ce qui...
Non, mais c'est lié. C'est lié à notre action dans le domaine du tourisme,
oui.
Pour démontrer notre ambition touristique et notamment pour obtenir le classement station de tourisme, il fallait démontrer qu'on mettait toute une série de commodités, les toilettes, mais pas que les toilettes, à disposition de touristes. Et le choix a été fait compte tenu du caractère modeste des recettes, hein, parce que c'est pas un truc qui va nous ruiner. Hein. Pas d'autres questions? Oui, madame.
Les sanitaires publics, il va y en avoir un qui va être mis avenue de Champagne?
Oui, à proximité du futur musée, dans le cadre d'un élément mobilier qui sera intégré à un arrêt de bus. C'est-à-dire qu'on fait maintenant dans les arrêts de bus une partie de sanitaires publics. Et on va effectivement... On avait des demandes parce qu'on avait des personnes qui remontaient l'avenue de Champagne et qui trouvaient le chemin long. Et elle fait quand même 950 mètres, ou des touristes. Et comme les toilettes étaient tout en bas, ça posait problème. Donc on va se situer du côté du lycée, me semble-t-il. Hein, du côté du musée, pardon. On aura un bloc sanitaire intégré dans un arrêt de bus. Fermé, évidemment. Comment ? Non, pas de côté transparent. Non. Il n'y a pas de danger. Sur ce rapport, avis contraire, abstention. 3 abstentions, j'imagine. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3L, Jacques Fromm.
Alors, chers collègues, suite à la rénovation totale du parking centre-ville, durant les travaux et pendant l'année suivant la réouverture, il avait été convenu de ne pas appeler les charges de fonctionnement auprès des amodiataires en raison des désagréments liés aux travaux. Il convient maintenant de fixer pour 2018 cet appel de charges qui constitue une provision sur les frais de fonctionnement du parking. La modalité de fixation de ces prix sont détaillées dans le rapport qui vous a été transmis. Les charges, cette année, prennent en compte les nouveaux coûts liés à la modernisation et à la mise en conformité aux normes actuelles de sécurité et d'accessibilité. Le calcul faisant ressortir un coût prévisionnel annuel par place de 347,88 € hors taxe, soit un TTC de 417,46 € pour l'année. Je vous propose de fixer l'appel de provision à 28,99 € hors taxe, soit 37,79 € TTC par mois.
34,79 moi j'ai.
Ah, 34,79, c'est moi, excusez-moi.
Merci. Oui, effectivement, on n'avait plus appelé de charge de, concernant les travaux pendant le temps des travaux, parce qu'effectivement, les gens ont été un peu perturbés. On a fermé la moitié du parking, donc ça semblait tout à fait justifié. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3e, Jacques Fromm.
Chers collègues, je vous propose d'émettre un avis favorable à la proposition de Monsieur le maire d'autoriser les commerces qui le souhaitent à ouvrir conformément à la réglementation 12 dimanches par an. Comme indiqué dans le rapport en votre possession, ces dérogations au repos dominical devront être mises en œuvre dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Vous avez les différentes dates qui sont mises en annexe.
Merci. Y a-t-il des questions, Madame Perrin ? Un vote contre, j'imagine.
Voilà, on va refaire le débat, mais je vais.
Voilà, merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4A. Abida Sharif.
Depuis quelques années maintenant, on vous propose d'adopter les attributions de la bourse au permis. Donc, cette fois-ci encore, on a épuisé une quarantaine de dossiers à la commission et 23 personnes sont les. Et la bourse, ils vont avoir la bourse parce que ce n'est pas encore confirmé. Et depuis le démarrage de cette bourse, on a quand même 309 bourses ont été attribuées, 111 ont été annulées parce que souvent ça arrive que la personne soit elle ne va pas au permis. Enfin, et ça arrive aussi que les personnes déménagent ou la personne n'a pas vraiment été intéressée par le permis, par le chèque, seulement par le chèque. Sauf que le chèque, il n'arrive pas, il va directement à l'auto-école. Enfin, il y a plusieurs raisons. Donc, 111 personnes bourses ont été annulées. On a 214 contreparties qui ont été terminées, 111 codes de la route et 107 permis de conduire qui ont été finis et réussis. Donc, je vous propose encore cette fois-ci de dire oui aux 23 personnes qui sont énumérées dans vos dossiers.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant, toujours à Bida.
Donc, je vous invite aussi à prendre, comme vous le savez, dans le cadre des contrats de ville, on a la dotation de solidarité urbaine. Et donc, on a cette somme-là qui est de 897 162 € et on a l'obligation de faire un rapport d'activité pour l'État et pour nous-mêmes d'ailleurs aussi. Donc je vous propose d'adopter ce rapport.
Merci. Des questions ?
Oui.
J'aurais juste une remarque. C'est marqué l'égalité homme-femme, c'est plutôt la parité maintenant.
Pardon ? J'ai pas entendu.
C'est marqué l'égalité homme-femme.
Oui.
On parle plutôt de parité.
Ça dépend.
Non, parce que la déléguée régionale des droits des femmes, c'est l'égalité homme-femme, mais même le. Oui. Enfin, je ne sais. C'est le français. J'avoue que
c'est
je suis pas
tout à fait
expert.
Pareil. La parité, c'est souvent quand il s'agit de parité dans des conseils d'administration, dans des postes électifs. L'égalité, c'est différent. C'est l'égalité des droits. Ce qui ne veut pas dire qu'on a exactement le même nombre de femmes ou d'hommes. Mais bon, on est autour des mêmes valeurs, donc il n'y a pas pour moi de difficulté à ce niveau-là. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 4C, Abida Sharif, toujours.
C'est le même rapport d'activité pour le contrat de ville qu'on fait tous les ans. C'est le même qui sert pour la dotation de solidarité urbaine et le rapport des contrats de ville. Donc, je ne vais pas vous répéter. C'est la même chose. Et voilà.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 4D.
C'est toujours moi. Donc, comme vous le savez, on a deux agents de médiation, enfin deux postes d'agents de médiation sur le quartier Bernou. Donc, je vous propose de re-signer le contrat avec la Poste parce qu'on est partenaire avec la Poste.
Et les missions des agents en question sont rappelées dans le rapport.
Oui.
Pas de questions. Oui, madame.
Oui, par rapport à la Poste, là, ça en est où? Par rapport à la Poste, ça en est où le projet d'un distributeur de billets à Magenta?
Mais on attend le retour, je pense, c'est la Caisse des Dépôts. Oui, on attend le retour pour les plans définitifs, mais ça ne devrait pas tarder puisqu'il y a l'accord de la mairie de Magenta, de la mairie d'Épernay, et je pense qu'on est dans la mise au point technique du dossier, mais je pense que ça devrait intervenir assez rapidement. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4E, Magali Carbonel.
Merci, monsieur le maire. La ville d'Épernay met en place depuis plusieurs années un fonds de soutien financier à l'école de la citoyenneté afin de proposer aux directeurs des écoles qui le souhaitent une aide à la réalisation de leur projet annuel sur le thème de l'éducation à l'environnement, au développement durable et la mémoire et le patrimoine. Donc vous avez un tableau qui est de ces projets. Je vous propose donc de valider l'attribution des moyens sollicités au titre du matériel pédagogique nécessaire pour les actions, ainsi que les sorties et les animations. Je voudrais apporter une petite précision en ce qui concerne ce tableau. Pour l'école Crayère, le montant demandé est 1 500 euros, le montant proposé est 0 euros. Ce n'est pas qu'on ne veut pas aider cette école, le projet est très bien, mais c'est parce qu'ils sont aidés par un autre financement qui est la semaine du goût.
Merci. Des questions? Pas d'opposition? Oui.
En ce qui concerne l'école élémentaire Bachelin, dans la colonne montant demandé, il n'y a rien, et montant proposé, 1899. Ils ne demandent rien et ils ont une subvention?
Ils ont une subvention parce qu'il y a, ils s'y sont pris un petit peu tard. Et voilà, on a dialogué avec eux, on a étudié avec eux. Mais dans le document qu'ils ont remis, le budget ne figure pas correctement. Voilà. Oui. Mais
pour compléter ce que dit Magali, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas mis de somme sur leur demande. Ils nous laissaient libres d'agrémenter la subvention parce qu'il y a. Un budget qui est assez conséquent, qui monte, je crois, de mémoire, on est autour des 20 000 euros.
Plus de 20
donc, on pouvait 000, donner 20 000 euros 20 000. Si on voulait. Voilà. Mais donc, on a choisi de donner cette somme-là au regard de l'égalité avec les autres écoles. Mais il n'y avait pas de somme fléchée, donc on peut marquer somme demandée, puisqu'il n'y avait pas de rempli. La case n'était pas remplie à ce niveau-là.
Voilà. Puisqu'on parle des écoles, je voudrais faire une proposition concernant le préau de l'école Crayère. Il est vraiment sale, il faudrait le repeindre si possible pour la rentrée.
Non, on a un projet de démolition, reconstruction de ce préau, parce que d'abord, on a une mise en conformité pour les personnes, l'accessibilité qui est requise. Et effectivement, je pense que ce serait mieux que de retaper ces vestiaires. Donc on a déjà évoqué la question à plusieurs reprises. Ce sera sûrement un des prochains projets à réaliser parce que, de toute évidence, l'école ayant évolué dans ses modes de fonctionnement, dans son occupation, il faut s'occuper de ce dossier-là assez rapidement. Pas d'opposition sur ce... Oui, pardon, excusez-moi.
Je voulais savoir s'il y avait, à un moment donné, une moyenne par rapport, parce qu'on ne sait pas trop si c'est juste une classe ou toute l'école qui est dans le projet. Est-ce que, par exemple, quand on voit qu'il y a une école qui a 4 000 euros... Et l'autre qu'on a 800, ça correspond à combien d'élèves? Est-ce qu'à un moment donné, c'est proportionnel?
Est-ce qu'il y a un coût par enfant ou pas?
Voilà.
Oui, il n'y a pas un coût par enfant, mais de toute façon, dans ce type de projet, on tient à favoriser les projets dans lesquels le plus d'élèves possible participent. Voilà, on ne veut pas favoriser, aider, par exemple, une classe qui fait une sortie. Alors, évidemment, plus il y a d'élèves qui participent au projet, plus la subvention est importante. Et c'est, nous avons des critères bien déterminés, et c'est une commission donc, qui se réunit, qui examine les projets au regard de ces critères. Voilà, alors, bien entendu, plus il y a d'élèves, plus la subvention proposée est importante.
Parce que à la communauté de communes, on a vu passer des subventions où là, c'était voilà, pour tant d'élèves, c'était enfin c'était par élève.
Tant par élève.
Oui, non, on ne fonctionne pas de cette façon. Non, on ne fonctionne pas de cette façon-là. Non, parce qu'il y a des projets qui ont prévu des sorties. Il y en a d'autres qui n'en ont pas prévu. Les coûts sont différents.
Pas d'opposition sur ce rapport ? Pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5A. Pierre Marandon.
Merci, monsieur le maire. L'amicale basket sparnassienne s'est considérablement développée depuis 3 ans, comme l'attestent les résultats des équipes féminines et masculines et la vitalité de son école de sport. Souhaitant accompagner cette démarche dynamique au service du sport sparnassien, la ville propose la mise à disposition d'un éducateur territorial à raison de 6 heures par semaine. Il s'agit donc de Thierry Gorguet, qui intervenait déjà au sein du club à raison de 2 heures par semaine.
Pas de questions sur ce rapport, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5B. Christian de Mongin.
Chers collègues, en réponse à l'appel au mécénat pour la réhabilitation du château Perrier, la maison Paul Roger propose de participer au budget relatif à la transformation du jardin pour la somme qui est indiquée dans les documents que vous avez reçus. Il convient donc de présenter une convention de mécénat que je vous propose d'approuver.
Évidemment, nous ne pouvons que nous féliciter de l'investissement de la maison Paul Roger, qui a toujours été attentive au patrimoine d'Épernay. C'est un signe tout à fait positif. Ces 310 000 euros seront versés sur 4 années, 2017 à 2020, puisqu'il y a possibilité évidemment d'étaler cette charge. Et nous aurons une signature de la convention avec la maison Paul Roger au mois de janvier prochain. Je voulais également vous indiquer que parallèlement, 114 000 euros de dons ont déjà été enregistrés, dont 42 000 par collecte auprès du grand public, 30 000 donnés par la Fondation du patrimoine et 20 000 par le club de mécènes de la Fondation du patrimoine, des amis de la Fondation du patrimoine. Et évidemment, d'autres contacts sont bien avancés aujourd'hui et devraient déboucher ou d'ici la fin de l'année 2017 ou dans le courant de l'année 2018. En tout cas, on sent manifestement un intérêt appuyé de nombreux acteurs locaux et dépassant d'ailleurs Épernay pour ce projet de musée du vin de Champagne et de l'archéologie régionale. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Pas de questions, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 5C, Christian de Mongin.
Le syndicat mixte de l'école intercommunale de musique d'Épernay et sa région a transmis une modification des statuts, en particulier pour la répartition entre une part fixe et part égale des cotisations des communes adhérentes. Cette modification doit être approuvée par chaque commune. Je vous propose donc d'approuver les statuts modifiés tels que vous pouvez les voir dans le document remis.
Merci. Y a-t-il des questions ?
Simplement que cette reconsidération du mode d'adhésion aura pour conséquence, je crois, l'augmentation de la participation de la ville d'Épernay par rapport aux communes. Est-ce vrai ?
Très probablement, puisque la ville d'Épernay a la grande majorité des élèves de l'école de musique et que désormais la cotisation sera fixée sur le nombre d'élèves. En revanche, dans la part fixe, la part de la ville d'Épernay diminue. Elle était de 92,5%, elle passe à 80%. Mais comme nous avons de nombreux élèves, il y aura au final une légère augmentation de la participation sparnassienne.
Merci. Pas d'autres questions ? Avis contraire, madame ?
On étend le nombre d'élèves possibles d'accueillir. Est-ce qu'on est en capacité de répondre à la demande si elle... Si elle est plus importante.
En ce qui concerne Épernay ?
Oui.
Pour l'instant, ça, nous acceptons cette, et nous pouvons participer selon les nouveaux termes.
Oh, je ne parlais pas du budget. Je disais que là, comme l'agglomération s'est agrandie, le nombre d'élèves
Non, mais l'agglomération ne rentre pas dans cette...
Non, le syndicat ne couvrait pas le territoire de l'agglomération. D'ailleurs, il allait sur des territoires qui sont autres que l'ancienne CCEPC. Donc, il n'y a pas de rapport entre les deux. Évidemment, si de nouvelles communes voulaient nous rejoindre, ou si de nouvelles élèves voulaient nous rejoindre, c'est le cas d'un certain nombre d'entre eux qui viennent de communes périphériques, mais ils sont les bienvenus à l'école de musique. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5D, Habitat Sharif.
Comme tous les ans, donc c'est une attribution des fonds pour la coopération décentralisée pour notre ville jumelle Fadin Gourma. Donc je vous propose de l'adopter.
Merci. C'est un fonds qui, je rappelle, est attribué tous les ans dans le cadre des relations que nous avons avec la commune de Fadin Gourma.
C'est pour eau et assainissement.
Oui, qui est un aspect effectivement important du développement de notre ville jumelle. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 6 à Anne-Marie Legras.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de fixer une redevance progressive pour l'occupation de locaux sur le site Lalo par la Régis Parnassienne de la manière suivante. 2018, gratuité. 2019, 15% du montant, soit 3 360 euros. 2020, 33% du montant, soit 7 400 euros. 2021, 50% du montant, soit 11 200 euros. 2022, 75% du montant, soit 16 800 euros. Et 2023, totalité, soit 22 400 euros. En effet, comme indiqué dans le rapport qui vous a été adressé, les difficultés de cette association avaient conduit à différer ce projet d'emménagement. L'étalement proposé permettra de satisfaire les besoins de l'association en termes de locaux indispensables à son activité, sans compromettre son redressement économique.
Merci. Des questions ? Pas de questions ?
Les difficultés sont résolues pour cette association ?
Elles sont en voie de résolution. Oui. Là, il y a une restructuration complète de l'association. Et aujourd'hui, l'activité redémarre. Donc elle est
encore... La ville va attribuer peut-être bientôt les espaces publics à nouveau.
Il y aura des procédures de marché, mais on peut espérer que la candidature de la régie sera peut-être meilleure cette fois qu'elle ne l'était les fois précédentes, puisqu'il y avait eu des erreurs de commises côté régie qui avaient plongé l'association dans des difficultés. Sur ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 6B, Jonathan Rodriguez.
Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter cette délibération qui est une convention entre BHC Énergie, la ville d'Épernay et également l'agglomération. On a voté dans les mêmes termes cette convention. Donc c'est une délibération qui est technique. Vous avez pu le constater par des mots peut-être nouveaux pour certains. C'est une convention et des conditions de rachat de ces certificats d'économie d'énergie qui sont normés par l'État, puisque c'est lié vraiment à des conditions faites pour les territoires énergie positive, dont les conventions étaient signées après le 13 février 2017. Donc on a des conditions avantageuses de rachat de ces certificats. On était au début la négociation à 3,50 euros, on est passé à 4,20 euros, ce qui nous fait un différentiel de 210 000 euros supplémentaires pour nos collectivités. La ville a été contactée au début, on a étendu ensuite à l'agglomération. Vous avez la liste des travaux qui sont en annexe. Vous regardez bien les sommes qui sont énumérées, on a pour un total entre les deux collectivités 975 000 euros de travaux hors taxes à faire. Et si on les fait, évidemment, aux conditions respectées pour la transition énergétique, on aura un rachat d'1 260 000 euros. Donc on pourra évidemment profiter de ça pour investir dans nos différents bâtiments. On doit continuer avec l'agglomération pour savoir quels travaux seront éligibles. Enfin, en tout cas, ils doivent être faits avant la fin d'année 2018. Donc on doit voir avec l'aglo. C'est pour ça qu'il y a une liste de travaux qui est un peu plus conséquente. Et ça dépasse les 975 000 euros, vous l'avez bien vu. Mais on doit voir avec l'aglo quels sont les travaux qui seront effectivement réalisés dans le courant de l'année pour pouvoir profiter de ces subventions, en tout cas de ces rachats.
Bon, inutile de vous dire que les chaudières qui vont être changées vont être remplacées par des chaudières qui bénéficient d'un bien meilleur rendement et qui vont donc générer des économies d'énergie importantes, tout en permettant évidemment à la ville de la ville et la communauté d'agglomération de régler au plus juste ces chaudières de manière à, encore une fois, limiter les consommations. Donc ça va tout à fait dans le bon sens. Y a-t-il des questions sur ce rapport, madame ?
Pourquoi ? En fait, c'est une histoire, c'est comme un leasing. C'est-à-dire que
non.
C'est pas les chaudières, on les paye, mais elles ne sont pas vraiment à nous.
Ben si.
Si, elles sont à nous, mais simplement les fournisseurs d'énergie ont l'obligation de racheter des certificats d'économie d'énergie. Et c'est une incitation qui a été mise en place par le gouvernement pour justement résorber les déperditions d'énergie qui étaient souvent liées, s'agissant du bâtiment, à l'absence de travaux d'isolation ou notamment s'agissant du cas en question, du maintien en service de chaudières qui ont 15 ans, 20 ans, voire plus, qui évidemment consomment beaucoup plus que des chaudières actuelles dont les réglages sont beaucoup plus précis. Et donc, ce système-là, ajouté au fait que nous sommes en territoire TEPCV, nous permet d'avoir ces contributions intéressantes, parce qu'elles vont permettre très, très concrètement de financer des travaux que nous aurions eu nécessairement à notre charge, pas forcément cette année, mais parfois dans les années suivantes, sans avoir les subventions équivalentes.
Oui, ces CE sont des certificats à polluer, et donc toutes ces entreprises qui polluent doivent avoir des certificats. Et donc là, les années précédentes, je pense qu'on devait toucher une somme d'argent, puisque ça existe déjà, la commune a déjà cette recette depuis 5-6 ans facilement. Maintenant, il y a peut-être la possibilité ou le choix d'avoir une réalisation en nature, matériellement.
Alors, les certificats d'économie d'énergie, on l'a fait auparavant. On ne l'a pas fait chaque année, ça fait 2-3 ans qu'on ne le faisait pas parce que les conditions de rachat n'étaient pas forcément bonnes. Mais on ne pouvait pas cumuler des subventions d'État avec des CE. Si on avait des subventions pour TEPCV, on ne pouvait pas les cumuler avec CE. Ouais. Donc ces travaux que vous aurez là ne bénéficient pas de subventions de TEPCV ou d'autres subventions d'État. Donc on peut en racheter ici.
C'est néanmoins une source de financement.
Oui, c'est une source de financement.
Et j'ajoute pour tout le monde que chacun, moi je l'ai fait il y a peut-être 4-5 ans,
ouais.
Changer de chaudière, en mettant une chaudière d'un type très économique, on reçoit de l'argent d'un vendeur ou même d'un magasin comme Leclerc, Carrefour ou autre, ouais. Qui vendent de l'essence, du gasoil et qui sont obligés d'avoir ces certificats.
Et s'ils n'ont pas ces certificats, ils ont une pénalité qui est beaucoup plus importante que ces 4,20 €. Mais cela dit, il y a le prix de marché qui est un peu inférieur à ce qu'on a négocié. Mais voilà, c'est aussi parce qu'on est normé et on a moins de marge de négociation pour aussi ça avec les TEPCV. Mais demain, on peut aussi continuer sur d'autres travaux, sur d'autres critères, avoir des certificats d'économie d'énergie qui ne sont pas normés par TEPCV, mais qu'on peut avoir avec... Il y a tout un tas d'acteurs qui rachètent ces CE. Mais les chaudières sont bien à nous. Les financements, on les a et on sera. On nous rachète autre chose, mais les chaudières, l'isolation aussi, il y a aussi l'isolation de toiture, etc., qui est fait dans cette convention. Tout ça, ça nous appartient.
Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Rapport 6, c'est Jonathan.
Oui, merci. Le projet Tandem, on en a déjà entendu parler ici, c'est animé conjointement par des collectivités, mais aussi. Au niveau international, Energy Cities et Klimabündnis, qui est allemand, c'est l'association allemande, l'ADEME également, et puis l'ADEME allemand, dont j'ai oublié le nom, qui offre aux collectivités locales de France et d'Allemagne une animation et une possibilité d'avancer ensemble dans la transition énergétique. Donc chacun choisit ses projets avec son jumeau allemand. Nous, c'est évidemment notre ville jumelle d'Ettlingen, mais il y a d'autres couples qui existent. Il y a Nice-Nuremberg, il y a Besançon-Munich, je crois. Enfin, il existe plusieurs couples. Et Épernay-Ettlingen est une des plus petites villes de France et d'Allemagne à faire ça. Et on a déjà fait pas mal de choses en termes de projets tandem. Il y a eu des échanges de personnels municipaux. Les services techniques ont déjà été là-bas à Ettlingen. Les Allemands sont déjà venus aussi à Épernay pour voir comment on travaillait dans la gestion des bâtiments, dans l'éclairage public, dans aussi la gestion des eaux usées ou ou de l'assainissement, ça déjà, enfin, l'assainissement ou de l'eau potable, ça a déjà été fait. Les Allemands sont parfois venus en disant on va vous apprendre pas mal de choses, mais ils sont repartis avec nos idées et ils étaient surpris de ce qui se faisait déjà à Épernay. Il y a déjà eu des échanges scolaires qui ont été faits avec des élèves allemands qui sont venus ici et des Français qui ont été là-bas en Allemagne. Mais aujourd'hui, le lycée a voulu formaliser un peu plus les choses et a demandé à avoir une convention de partenariat, en tout cas de cadrer un peu les choses sur les obligations des uns et des autres. Donc les Allemands ne demandent pas ça, mais le lycée Stéphane Hessel a demandé cette convention. Donc on a rédigé cette convention. On devait la passer au dernier conseil municipal, mais on avait un petit peu de retard avec... le lycée n'avait pas validé les conditions. Donc on vous propose aujourd'hui cette convention. Et des Allemands, des Français devraient partir en Allemagne et des Allemands devraient venir en France d'ici quelques mois, en avril-mai. Il y aura des échanges comme ça. Évidemment, ce sont des échanges liés à la transition énergétique, puisque ce sont des élèves de la classe ST2I, STI2D, pardon, qui travaillent sur le développement durable et qui a un diplôme qui travaille sur la transition énergétique.
Voilà. Merci pour ces explications. Oui, Madame Perrin.
C'est l'objet de subventions de l'Europe ou de l'OFAGE, non ?
Alors, il n'y a pas de subvention européenne là-dessus. Par contre, le lycée, et ce que lui avait proposé le vice-président de région qui est en face de vous, avait proposé au lycée de demander des subventions auprès de la région, puisqu'il y a sûrement des au titre soit de l'aide au lycée, soit de l'aide internationale qui est proposée aussi par la région. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, le lycée n'a pas encore fait cette démarche de subvention. Alors je pense que c'est un peu tard pour cette année, mais il faudra y penser pour l'année prochaine. Voilà. Après, il n'y a pas de subvention européenne parce que l'ADEME et puis l'ADEME française et allemande financent déjà Energy Cities, qui est l'association qui gère ça. Donc il y a déjà des financements européens qui sont liés par Energy Cities, qui en touche aussi de son côté.
Du côté de la région, il y a une politique qui vise à développer les projets Erasmus+, qui va se déployer, l'objectif étant évidemment d'encourager les relations internationales des lycées et également le bilinguisme, puisque c'est évidemment un enjeu majeur à l'échelle de notre région, compte tenu non seulement de notre proximité avec plusieurs pays européens, mais également compte tenu du fait que des régions comme par exemple Bade-Württemberg vont créer dans les 5 ans qui viennent environ 800 000 emplois sans avoir la population active pour y faire face, ce qui évidemment pourra représenter une opportunité pour des jeunes issus de notre région. Pas d'opposition sur ce rapport, pas d'abstention, le rapport est adopté. Il nous reste à aborder le rapport numéro 7 concernant les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Avez-vous, mes chers collègues, des questions à poser sur ce rapport ? Pas de questions ? Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, de très bonnes fêtes de fin d'année, sachant que nous nous retrouvons le vendredi 19 janvier à 18h30 pour le vote du budget. Très bonne fin d'année à tous.